Si nous sommes dans le nouvel an, on a entendu depuis longtemps, on est déjà dans le quatrième jour de cette nouvelle année. Vous savez, l'année dernière, si nous allons tourner l'année dernière, mais beaucoup de choses sont passées. Nous avons dirigé notre vie par rapport au choix que nous avons fait dans l'année 2021. Et ce sera la même chose aussi par rapport au choix que nous allons faire dans l'année 2022. Notre vie, ce sera dirigée par nos choix. Tournez avec moi le livre de Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. On va lire à partir de verset 15 jusqu'à 20, Deutéronome 30. Nous allons lire à partir de verset 15 jusqu'à 20, verset 20. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc, nous voyons ici que Dieu met un choix devant les hommes. Il force personne de faire ce que il devrait faire, mais il a toujours laissé le choix. Et l'Ancien Testament, nous avons beaucoup de leçons à apprendre en tant que chrétiens. Et 1 Corinthiens 10, 11 dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes prévenus à la fin des siècles. Donc tous les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, leur vie nous enseigne beaucoup de choses. Le modèle à imiter et certaines choses qu'ils ont expérimentées à ne pas suivre. Une leçon très importante, c'est de faire des choix dans notre vie. Faire des choix dans notre vie. Et vous vous souvenez de cet homme, Lot, il a fait le choix où vivre. Quand il faut choisir, il a fait un mauvais choix pour où aller vivre. Il a vu que la terre était fertile et il est parti dans ce sens. Et tandis qu'Abraham, il a choisi l'autre côté. Hein? Donc, et nous connaissons la conséquence de son choix, le choix de l'autre. Et l'oppression et le tourment par des gens qui craignaient pas Dieu, Et Lot et sa famille, ils ont subi tout cela. Et nous voyons en 2 Pierre 2, 7 à 8, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmenté journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Mais Lot, il a fait un mauvais choix. Il est parti à vivre à Sodome. Et nous connaissons comment c'était. Il n'y avait personne. Il ne cherchait pas la communion fraternelle. Si vous vous souvenez, quand il y a eu des querelles entre les bergers de Abraham et Lot, Abraham, il dit, nous sommes les frères. Il ne faut pas que ce soit ainsi entre nous. Nous sommes des frères. Donc, mais Lot, il a cherché autre chose qu'il devrait chercher. Il a cherché autre chose. Et donc, il a subi des conséquences de tout ça et il a perdu tout ce qu'il voulait gagner, mais finalement, il a tout perdu, ses possessions, et il a perdu sa femme. Et après, il y avait des choses très moches qui se passaient dans sa vie, l'inceste avec ses filles. Nous voyons ça en Genèse 19. Une autre personne que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est David. Et David, il a fait le mauvais choix. Il n'était pas obligé de faire, mais il a fait un mauvais choix de commettre l'adultère avec Bathsheba. Il a fait un mauvais choix. Les circonstances peuvent venir à n'importe quelle personne. Les circonstances on peut rencontrer des circonstances, mais nous voyons tous les jours, nous devrions faire le choix. Et juste quand vous marchez dans la rue, vous devrez faire le choix. Est-ce que je devrais traverser la route ou pas? Est-ce que je devrais attendre pour le feu ou pas? Est-ce que je devrais prendre la voiture ou pas pour venir au culte? Et même, est-ce que je devrais aller au culte ou pas ce soir? Donc, nous sommes obligés de faire face à de nombreux choix dans notre vie. Et David, il a fait un très mauvais choix dans sa vie, de commettre l'adultère avec cette femme Bathsheba. Et la conséquence, il a subi beaucoup, beaucoup de douleurs dans sa vie. Déjà, il a perdu cet enfant qu'il a eu par Bathsheba. Il a passé des nuits et jours en pleurant devant Dieu pour ce qu'il a fait. Et donc, en 2 Samuel 12, nous voyons que Dieu l'a châtié David par la mort de son enfant. Et aussi, il avait sa fille molestée, violée par son fils, son demi-frère. Donc, 2 Samuel 13. Et ce frère était tué par un autre frère. Donc, sa famille, c'était une catastrophe. Et les enfants, ils ont été tués. Et il n'avait aucun contrôle sur sa famille parce que lui-même, il n'était pas un bon exemple. En tant que père, David, il n'était pas un bon exemple. Il a fait le mauvais choix et ça suivait, poursuivait David toute sa vie. Toute sa vie. Comment il devrait être tué par son propre fils Absalom. Donc il était pourchassé par son propre fils Absalom. Et il a subi la honte devant sa nation. Et finalement, la mort d'Absalom a amené beaucoup de douleur au cœur de David. Donc, tout ça parce qu'il a fait un mauvais choix. David, c'est David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme avec un une réputation de cette sorte, mais finalement, nous voyons que combien, par un seul choix, il a subi toutes ces choses. Donc, on ne peut pas prendre nos choix avec une légèreté. Nous devrions faire très attention quand nous allons prendre le choix. On peut prendre l'exemple d'une autre personne dans l'Ancien Testament. Elle, elle a fait un choix qui était le bon choix. Ruth, chapitre 1, verset 16. Livre de Ruth. Chapitre 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Vous voyez le choix que cette femme elle a fait. Elle avait le choix. Elle aurait pu partir comme sa belle-sœur Orpha. Parce que Naomi, elle a donné le choix. Ces trois femmes, elles se trouvent, après la mort de leur mari, elles se trouvent dans ce pays, dans le pays avec la famine. Et Naomi, elle parle avec les deux belles-filles. « Voilà, mes filles, maintenant, vous pouvez partir chacun vers la maison de votre père. » Et Ruth était un Moabite. Donc, elle aurait pu quitter sa belle-mère pour rentrer chez elle. Mais ce que Orpha, sa belle-sœur, elle a fait. Mais Ruth, elle a fait un bon choix ici. Et comment on sait que c'est un bon choix? Déjà, par la parole qu'elle dit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. » Et Ruth, elle connaissait le Dieu de Naomi. Elle connaissait le Dieu de ce peuple de Dieu, le peuple Israël. Et mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et Dieu l'a béni cette femme abondamment. Mais nous voyons que Ruth, elle apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ. Ruth, parce qu'elle a resté avec Naomi, elle a trouvé un mari, Boaz, par lequel elle enfanta Obed. Et dans cette génération, le roi David, il est né. Donc Dieu, il a béni le choix de cette femme. Elle a fait le bon choix de rester avec Naomi, de ne pas quitter pour retourner vers son peuple. Et avec Lot et David, nous voyons comment faire de bons choix ou de comment ne pas prendre le mauvais, comment ne pas faire le mauvais choix dans notre vie. Et certains choix qu'on peut faire, ça peut affecter notre vie terriblement. Ça affecte grandement notre vie. Certains choix. Nous savons, hein, chacun, nous connaissons combien un choix que nous avons fait dans le passé, combien ça a affecté notre vie. Parfois, ça traîne pendant longtemps. Un choix que nous avons fait, ça peut affecter profondément notre vie. Et aussi, nous allons voir qu'est-ce que nous devrions faire quand nous prenons, quand nous faisons un mauvais choix. Le choix s'affecte. Le choix que nous faisons affecte notre vie. On peut pas dire que ça n'affecte pas notre vie. Par exemple, choisir de suivre Jésus-Christ, et c'est un choix que nous avons fait. Chacun, nous avons fait ce choix de suivre ou ne pas suivre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et ça définit presque notre vie. Le choix que nous avons fait, ça définit toute notre vie. Mais certains n'ont pas choisi, même des personnes qui étaient dans l'Église, qui ont entendu la parole depuis leur jeune âge, et à certains points de vie, à certains moments de leur vie, il prend cette position de ne pas suivre Jésus-Christ. Donc, le choix que nous faisons, ça affecte notre vie. Et on devrait être conscient de ça. Et on fait le choix de suivre Jésus-Christ. Et on fait aussi le choix d'être le disciple de Jésus-Christ. C'est un choix aussi. Parce que être le disciple de Jésus-Christ, c'est suivre Jésus-Christ ardemment et tous les jours. Ce n'est pas un choix qu'on fait après on reste assis dans le dernier banc. Je ne parle pas par rapport aux gens qui sont assis dans le dernier banc aujourd'hui. Mais d'une manière générale, on peut dire que je choisis de suivre Jésus-Christ, mais après, on reste immobile, sans rien faire. Mais le choix de suivre Jésus-Christ, le choix d'être son disciple, ses disciples, et comment négliger ce qu'il nous offre, comment ignorer ce que le Seigneur il nous offre. Le Seigneur il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerez, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc le Seigneur, il dit clairement de venir vers lui pour lui suivre. Mais souvent, devant ce choix, on peut fermer la porte devant le Seigneur et on peut choisir de suivre le monde. On a le choix, comme nous avons lu en Deutéronome, hein, le Seigneur il met les deux chemins devant nous. On a les deux chemins devant nous. On peut suivre le Seigneur, sinon on peut suivre le monde aussi. Mais nous devrions décider quoi faire. Est-ce que nous devrions suivre le Seigneur fidèlement ou nous devrions suivre le monde? Et cette décision va affecter notre vie plus que n'importe quelle décision qu'on peut prendre. La décision de suivre et vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, ça va affecter notre vie chrétienne. Et ça va définir notre... ça va affecter notre éternité. Ça va affecter notre éternité. En tant qu'un disciple, nous devrions faire sa volonté. Et nous avons choisi d'être un disciple de Jésus-Christ et nous ne pouvons pas faire ce que ça nous plaît. Nous devrions faire tout ce qui peut plaire à notre maître, tout ce qui plaît le Seigneur. Ce n'est pas ce qui me plaît, tout ce que je voudrais faire dans ce monde, mais je devrais chercher à faire sa volonté, à chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses, ce sera donné en plus. Mais le Seigneur, il est très clair dans son appel. Il nous demande de venir vers lui, de lui suivre. Et quel type de... comment nous avons choisi de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et même dans le monde, et nous sommes dans la situation de faire le choix, de chercher un travail. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons un travail. Quand vous êtes jeune, on cherche un travail. Quel type de métier nous devrions choisir? Quel type de métier qui peut plaire le Seigneur, qui peut me permettre de vivre une vie chrétienne pleinement pour lui? Hein? Nous devrions faire le choix. Parfois, on peut trouver un travail qui peut nous donner 5 000 euros par mois. Mais est-ce que c'est le bon choix? Quels critères nous gardons pour chercher un travail, pour faire un choix, pour suivre le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, il est mon priorité ou gagner plus d'argent? Quelle est mon priorité quand je cherche un travail? Le marché de travail, ça change tout le temps. C'est très attirant, ça peut nous attirer. Je sais qu'un frère qui, on a donné une voiture, et on a donné un beau salaire et tout ça, mais quoi choisir? Je pense qu'il y a un magazine qui s'appelle quelque chose comme ça. Oui. Qu'est-ce que nous devrions choisir? Est-ce que je peux trouver un travail où je serai obligé de travailler le jour du Seigneur? Il n'y a pas une loi, mais je devrais faire le Seigneur mon priorité. C'est quelque chose qui peut m'empêcher de servir le Seigneur. Nous ne sommes pas sous la loi, certaines catégories de chrétiennes qui disent que voilà, c'est le sabbat, je travaillerai pas et tout ça. Bien que certains métiers, ils sont obligés de travailler, comme des infirmiers, comme les médecins, des pompiers, on comprend bien. Mais c'est à chacun de choisir, chacun de faire de bons choix pour sa vie. Et sinon, si on fait un mauvais choix, ça peut nous amener vers la difficulté financière ou des autres problèmes dans notre vie. Donc, il y a des autres choix comme le mariage et la famille. Et c'est un grand choix, n'est-ce pas, quand nous allons choisir un homme ou une femme pour se marier. Nous sommes amenés à être très vigilants pour faire le bon choix. Et selon la volonté de Dieu, est-ce que nous cherchons la volonté de Dieu pour faire ce choix? Est-ce que nous plaçons le Seigneur au centre de notre vie ou nous essayons de placer autre chose dans notre vie au centre et garder le Seigneur à côté pour visiter le dimanche ou un certain moment de notre vie? Quel choix nous faisons pour quand ça vient dans la question de mariage et notre service à Dieu? Et comment choisissons pour arranger notre vie? Comment nous choisissons les choses pour arranger notre vie pour mieux servir le Seigneur? Pour mieux servir le Seigneur. Parfois, on peut, par exemple, si nous cherchons une maison, hein, on peut, si on peut aller dans la Provence, on peut acheter une grande maison avec 2000 mètres carrés de jardin et tout ça. Quelle est notre priorité? Comment nous choisissons? Est-ce que nous cherchons la communion fraternelle premièrement? Est-ce que nous cherchons la communion des saints? Est-ce que si ma maison ou ma famille, hein, je parle de grande famille aussi, s'il peut m'empêcher de rester près de mon Dieu, je devrais poser la question. Est-ce que, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que le Seigneur, il est ma priorité ou d'autres choses? Mais parfois, le Seigneur, bien souvent, je pense que le Seigneur, il nous bénit avec certaines choses. Mais bien souvent, nous peut convertir ces bénédictions en malédictions pour nous-mêmes. Et le Seigneur, il peut te donner une voiture, une belle voiture, mais parfois, la belle voiture peut t'amener pour les vacances, mais pas à l'église. Par exemple, et il y a beaucoup de choses comme ça. Et on commence à adorer le cadeau et on oublie celui qui a donné le cadeau. On commence à adorer ce que le Seigneur il nous a donné, mais on oublie le Seigneur. Vous pouvez appliquer ce principe à beaucoup de domaines de notre vie. Hein? Ça peut être le travail aussi parfois. Ce Seigneur, il nous donne un travail. Parfois, le travail devient le centre de notre vie. Mais on devrait poser la question, mais est-ce que c'est sage de faire des choses comme ça? Est-ce que c'est sage? Même notre service religieux, j'espère que vous comprenez ce que je dis, notre rituel d'aller à l'église, de faire la classe des enfants, faire de la musique, ou faire la prédication, le rituel peut m'empêcher de rester près de Dieu. Mais ça peut m'écarter de mon communion avec mon Seigneur. Donc, chaque moment de notre vie, nous devrions faire le choix. Nous devrions constamment trier, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent dans notre vie. Parfois, certaines choses, ça peut paraître très spirituel. Ça peut paraître très spirituel, mais nous devrions poser la question, est-ce que c'est la bonne chose que je fais cela? Premièrement, nous devrions voir, est-ce que le choix que je fais, ça honore mon Dieu? Le choix que je fais, est-ce que ça honore mon Dieu ou pas? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que nous cherchons premièrement le royaume de Dieu? Royaume et la justice de Dieu. Parfois, certaines choses peuvent nous paraître comme justes, mais ce n'est pas nécessairement le juste, la justice de Dieu. Ce que peut me paraître correct ou juste, ce n'est pas nécessairement la justice de Dieu. Ce n'est pas nécessairement une valeur dans le royaume de Dieu. Vous savez, les choses qui peuvent paraître précieux dans le monde, ce n'est pas nécessairement précieux dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous connaissons cette différence entre ces choses? Et si nous, dans notre décision, dans notre choix, est-ce que l'argent, il est au centre de notre choix? Est-ce que nous évaluons toutes choses avec l'argent au milieu? Est-ce qu'on tourne autour de l'argent? Nous devrions poser cette question. Je vais lire de 1 Timothée 6:6-10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et s'il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans le beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, nous devrions garder ce verset toujours dans notre esprit. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Mais chaque fois, nous devrions faire le choix, mais nous devrions poser cette question. Est-ce que j'ai un amour pour l'argent? Est-ce que ça affecte ma choix? Est-ce que ça affecte ma choix? Choisir quelqu'un pour marier peut changer notre vie. Ça peut affecter grandement notre bonheur, ce que nous pouvons chercher dans le mariage. Et souvent, les gens, ils cherchent une femme ou un mari, mais il faut aussi poser la question, est-ce que lui sera un bon père pour mes enfants? Ou est-ce qu'elle sera une bonne mère pour mes enfants? Donc, ça va plus loin. Ça va plus loin. Ce n'est pas uniquement le mariage. Tout le monde se marie dans ce monde. Et ce n'est pas uniquement le mariage. Mais ça peut affecté de génération à notre génération. Et combien de mariages se terminent avec le, se terminent au divorce? Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, les gens, ils prennent avec une certaine légèreté le divorce. En Malachie 2,16, Dieu dit, « Car je haïs la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Donc, nous devrions voir ce que le Seigneur il veut pour nous. Et aussi, le choix de nos amis. On peut avoir, il faut avoir des amis. La Bible, elle dit plein de choses sur des bons amis. Il faut avoir des amis. Mais quel type d'amis nous allons choisir? Des amis qui peuvent nous encourager de marcher dans la voie du Seigneur, ou des amis qui peuvent nous empêcher de marcher dans la voie du Seigneur. Mais ça arrive. Parfois, on a mal à quitter nos anciens amis avec qui nous étions sans église, sans Dieu, sans la communion fraternelle. Et ces vieux amis, parfois, ils peuvent venir revenir dans notre vie. Ils peuvent nous empêcher d'aller dans l'Assemblée des Saints. Est-ce que, comment nous choisissons notre ami? Est-ce que on donne la priorité à Dieu ou à nos amis? Et parfois, on peut être empêché dans notre marche avec le Seigneur à cause de nos amis. Donc nous devrions faire très attention. Parfois ça peut paraître très innocent, mais ce n'est pas si innocent que ça. Parce que le malin, il veut nous empêcher de grandir dans la foi. Le malin, il veut nous faire chuter. Et nos amis, ils peuvent jouer ce rôle de nous empêcher de vivre pour le Seigneur. Et la Bible dit... en Proverbe 12, 26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Et encore en 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Comment nous choisissons nos amis? Qui sont nos amis? Quel type de personnes sont nos amis? Je ne dis pas que nos amis devraient être tous des chrétiens. Non, parfois on peut avoir des amis, mais nous devrions savoir où tirer les lignes, mettre la barrière. Est-ce que nous sommes une influence dans notre vie, dans leur vie, où ils font une grande influence dans notre vie? Et donc, faire le choix où vivre, hein, quel voisinage, où vivre. Et l'autre, il a fait cette erreur. L'autre, il a fait cette erreur parce qu'il avait autre chose dans la tête. Il a pensé qu'il va enrichir dans sa vie en choisissant cette plaine qui était bien verte et fertile. C'était un bonne décision dans le business, mais ce n'est pas une bonne décision, un bon choix pour sa vie. Donc, même aujourd'hui, on peut avoir des Sodome et Gomorre qui paraissent différemment, mais on peut avoir le Sodome et Gomorre dans notre vie, où ça nous entraîne de faire le mauvais choix. Ça nous entraîne pour faire le mauvais choix. Donc, comment faire le bon choix? Nous devrions demander à Dieu la sagesse. Devant chaque choix que nous devrions faire, nous devrions, premièrement, nous devrions être conduits par son esprit. Chaque fois, nous ne demandons pas, Seigneur, est-ce que je traverse la route ou pas? On ne fait pas. Mais si nous sommes conduits par l'esprit du Seigneur, par sa parole, instruits par sa parole, et nous ferons le bon choix. Nous ferons le bon choix. Donc, nous devrions tous les jours demander au Seigneur de nous remplir par sa sagesse, par le discernement. On peut connaître beaucoup de choses, vous savez, on peut connaître la Bible entière. La connaissance enfle, mais on a besoin de discernement. Parfois, quand nous n'étions pas chrétiens, nous devrions faire face à cette décision de faire le choix entre le bon et le mauvais. Mais quand on est, une fois qu'on est des enfants de Dieu, on devrait faire le choix entre le bon et le meilleur. Les deux choses paraissent bonnes, mais nous devrions choisir entre le bon et le meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur? Quelle chose peut amener la gloire à Dieu? Le choix que je fais, est-ce que ça va amener, est-ce que je vais faire les gens blasphémer le nom de Dieu? Ça peut arriver. Donc, nous devrions demander à Dieu pour la sagesse. Hein. Donc, en Jacques chapitre 1, 5 à 8, Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, je pense que premièrement notre problème c'est de reconnaître que nous manquons la sagesse. Et je ne sais pas combien d'entre nous pensons que nous manquons la sagesse. Mais Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Regardez, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Donc, si quelqu'un manque la sagesse, mais premièrement, je pense qu'on devrait accepter que je ne suis pas si sage. Parfois, je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas. Les deux choses semblent bonnes. Je ne sais pas. Seulement la sagesse de Dieu peut m'éclairer. Quoi choisir? Je ne sais pas. Donc, on devrait avoir l'humilité pour accepter que, Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est ce roi? C'est David qui a dit que, non, c'est Salomon. Donne-moi la sagesse pour conduire ce si grand nombre de peuples. Nous devrions demander à Dieu pour la sagesse. Et parfois, nous devrions avoir l'humilité aussi pour écouter les autres. Et Dieu, il peut utiliser les autres pour nous instruire aussi. Des hommes et des femmes sages peuvent nous beaucoup éclairer dans notre décision. Et nous devrions demander à nos frères et sœurs, mais je vous demande pas d'aller vers tout le monde pour demander, voilà, je devrais acheter un chat, mais est-ce que je devrais acheter un chat noir et un chat blanc? Nous devrions avoir l'humilité. Si on a l'humilité pour demander Dieu, je pense que on peut demander des autres chrétiens aussi, qui est instruit par la parole de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui peut nous aider pour faire le bon choix dans notre vie. Donc, on peut demander à Dieu et on peut demander On peut demander à des autres frères et sœurs pour nous aider pour faire ce choix. Et et quand on fait le mauvais choix, nous devrions laisser le choix à Dieu. Quand nous devrions faire le choix, on peut, c'est mieux qu'on laisse Dieu faire le choix pour moi. Je vais terminer vite. C'est mieux que je laisse Dieu à choisir pour moi. Et quand je ne sais pas choisir, je laisse Dieu et Dieu nous conduira dans cette affaire. Nous devrions laisser Dieu choisir. Et parfois, quand nous faisons le mauvais choix, et qu'est-ce que nous devrions faire? Et nous devrions voir, écouter la parole de Dieu, et nous devrions repentir. Si nous avons fait le mauvais choix, c'est le moment de repentir. Et parfois, c'est bien de revenir à zéro pour recommencer, au lieu de continuer avec le mauvais choix. Si nous avons fait le mauvais choix, ça ne sert à rien de continuer. Si nous avons pris une mauvaise route, et c'est mieux de revenir pour partir dans l'autre direction. Ça ne sert à rien de continuer dans notre chemin. Si Dieu nous dit que nous avons fait de mauvais choix, et nous ne devrions pas rester dans le même avec le choix que nous avons fait. Nous allons pas traîner là-bas, mais revenir, demander pardon à Dieu pour la sagesse et demander à Dieu la sagesse. Donc le meilleur choix que nous aurons pu chacun nous avons pu faire, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ et être ses disciples. Vous savez, cet homme Josué, dans le livre de Josué, chapitre 24, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient au Père, au-delà du fleuve, ou de Dieu des Amoriens, dans le pays duquel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quel choix il a fait. Même si le monde entier, il choisisse de faire autre chose. Cet homme, il a été résolu. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et constamment dans notre vie, nous sommes amenés à faire des choix. Tous les jours. Dans beaucoup de domaines. Mais la parole nous dit que nous devrions faire le bon choix. Le choix qui peut amener la gloire, amener gloire au nom de Dieu. Et comme Jésus est, si nous pouvons dire que moi et ma maison serviront l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous aide à faire de bons choix dans notre vie et de rester fidèle à la parole de Dieu et en obéissant aux paroles de Dieu. Prions.